verrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Strampe, architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des musées. Alors, on va parler, nous sommes à Toulouse, Radio Esprit Occitanie, nous allons parler des musées toulousains, en tout cas de deux d'entre eux, qui sont les plus connus, le musée des abattoirs. Le musée des abattoirs, comme chacun sait, c'est le musée qui a été installé à la place des anciens abattoirs de Toulouse, dans un bâtiment du XIXe siècle de qualité, qui a été donc conservé et aménagé en musée. Et puis, il y a le musée des Augustins, qui est un des premiers, on peut dire, grands musées de France, qui a été construit par Viollet-le-Duc, ou plutôt un élève de Viollet-le-Duc, à la fin du XIXe siècle, et sur un bâtiment conventuel qui a été développé et au moment où on a reconstruit la rue de Metz et en partie la place Esquirol, donc au carrefour essentiel de la ville rose. Donc ce bâtiment a été fermé pendant 7 ans et pour une rénovation dont j'ai déjà parlé de cela dans d'autres émissions et qui parlait de la longueur des travaux actuels, et je m'étonnais que on puisse, pour aménager une rue avec des aménagements de détails, de surface, comme la rue de Metz, ce qui est le cas aussi de d'autres rues de Toulouse, et à la fois dans le centre-ville, mais aussi à l'extérieur, que les travaux durent aussi longtemps. Que les travaux durent 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui a été le cas de la rue de Metz, et j'avais rappelé à cette occasion que le percement de la rue, alors il faut savoir que le percement de la rue, c'était pas au milieu des broussailles, c'était la ville ancienne. Il avait été nécessaire de démolir les maisons du bâti médiéval et de reconstruire des façades donc en briques 19e qui sont évidemment toujours présentes. Donc c'était des opérations considérables et à une époque où on n'avait pas la mécanisation que nous avons aujourd'hui. Alors au même moment, on a donc fait le percement de la rue de Metz, la construction de la rue de Metz et des façades de la rue de Metz, et également, donc, à l'angle de la rue Alsace et de la rue de Metz, il y avait donc le musée qui était une sorte d'annexe assez majestueuse du cloître des Augustins, de l'ensemble conventuel, avec l'église, la chapelle, etc. Et également, au même moment, on a réaménagé aussi les façades de la place Esquirol en prolongement de la rue de Metz. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'à cette époque, qui est à la fois lointaine, mais pas tellement, mais en tout cas, qui n'avait pas du tout la mécanisation que nous avons aujourd'hui, on a fait cela en 3 ans, et qu'aujourd'hui, pour faire des travaux minime, et dans le cas du musée, c'est encore plus surprenant parce que il s'agit non pas comme dans le cas du musée des abattoirs où on a une transformation d'un bâtiment, on peut dire, d'usage industriel en un bâtiment culturel. C'est aussi un cas assez répandu. Par exemple, à Madrid, il y a le plus grand musée, qui est le musée de la Reine Sophie, est un musée qui a été reconstruit ou réaménagé à partir d'un ancien hospice Et donc, il y avait une transformation considérable. D'ailleurs, ces travaux n'ont pas pris, ou du moins n'ont pas duré plus de 2 ans, ou 2 ans et demi, je crois. C'était un de mes amis, Francisco Fernandez Salba, qui en était l'architecte. Donc, dans le cas du musée des Augustins, on se trouve devant une opération qui est uniquement une opération d'entretien, et on ne comprend pas très bien cette mode aujourd'hui, qui n'est pas uniquement toulousaine. Par exemple, le musée Beaubourg, le musée Pompidou, que tout le monde connaît à Paris, qui est un bâtiment spectaculaire et abritant des collections remarquables d'art moderne, a été fermé pour 5 ans, attendu qu'il y a eu, depuis sa construction dans les années 60, il y a eu déjà 2 campagnes de rénovation. Alors, ça interroge sur le fait que les rénovations sont de plus en plus longues. Elles étaient partielles à des moments, c'est-à-dire qu'on rénovait en fermant une partie des salles, en les rénovant à la suite. C'est ce qui se passe dans la plupart des bâtiments. On ne ferme pas l'Élysée parce qu'on va repeindre les salles. Et donc, je ne comprends pas très bien pourquoi on a cette fermeture. Et à Bayonne, par exemple, il y a un musée remarquable qui a été légué par un peintre du XIXe siècle. Et ce musée a fermé pendant 15 ans, ce qui est totalement aberrant. Alors, pour revenir au musée des Augustins, donc, c'était un bâtiment relativement récent, qui apparemment, de ce que je n'avais vu, n'était pas dans un état du tout déplorable, et on a cette fermeture pendant 7 ans. Et donc, je vais vous parler de la visite et de la rénovation, et puisqu'en fait, quel est le résultat d'une rénovation aussi longue? Alors, il faut dire aussi que la rénovation n'est pas terminée. Et on peut quand même se poser une question. Le cloître, pendant la visite actuelle, il y a le cloître qui est à moitié fermé, et il y a 3 ouvriers qui travaillent dans ce cloître. On se demande ce qu'ils ont fait pendant 7 ans. Je sais pas, ils jouaient aux cartes, peut-être. C'est vraiment une question que l'on peut se poser. Surtout, aujourd'hui, il n'y a aucune raison, et je le répète encore une fois, qu'avec les techniques contemporaines, on ne puisse pas isoler les salles, faire des travaux d'une manière rapide. Il n'y avait rien de spécial, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a rien eu de dramatique pour cet aménagement-là. Alors, vous me direz, mais si le résultat est magnifique, alors c'est justement la surprise dans cette visite. Alors je vais revenir en arrière par rapport au musée des abattoirs où il y a actuellement une exposition qui est une exposition tout à fait intéressante qui est le couturier Cassel-Bajac. Et le couturier Cassel-Bajac qui est d'ailleurs un Occitan, une ancienne famille gersoise et qui est, comme chacun sait, un homme inventif à la fois en tant que couturier, mais aussi il est graphiste. Et cette exposition qu'il a aménagée lui-même, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du musée, il y a une sorte de musée temporaire pour cette exposition, avec un aménagement des murs, et on a une sorte d'historique de l'œuvre de Cassel-Bajac qui a été scénographié par lui-même et qui est tout à fait intéressante parce que c'est amusant, drôle, mais évidemment il y a à la fois la légèreté de la mode avec beaucoup de choses qui sont très humoristiques et il y a aussi des dessins de lui, des dessins d'amis, enfin il y a tout un parcours qui est tout à fait fascinant et qui justifie le terme de musée d'art contemporain parce que il s'agit d'actions réelles et qui sont vraiment contemporaines et qui ne sont pas comme les musées du passé où on a une sorte de préservation des œuvres anciennes. Alors justement, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y avait, dans mes souvenirs du musée des Augustins, la salle des chapiteaux, qui était une collection tout à fait remarquable de chapiteaux des cloîtres détruits, de l'Occitanie. Et les chapiteaux de cloître sont ce qu'on appelle historiographés, c'est-à-dire qu'ils ont des personnages et ils racontent des histoires. Alors les histoires, évidemment, c'est pas les histoires de Castelbajac, ce sont des scènes bibliques, des scènes de l'Évangile, et qui ont été sculptées pour une population qui, à l'époque, ne savait pas lire. La majorité des gens ne savaient pas lire, donc on avait besoin d'images, de sculptures, comme il y avait aussi des fresques colorées qui racontaient les récits de la religion. Donc, un des précédents conservateurs est Denis Millau, qui était un homme cultivé et excellent, il avait eu la faiblesse de faire par un architecte toulousain des supports des chapiteaux qui étaient en métallique un peu curieux, mais on avait ces chapiteaux à hauteur de vue, tandis que là on les a au bout de colonnes qui sont colorées et un peu dans l'esprit de Castelbajac, mais ce qui est incompréhensible, c'est que ce soit appliqué à des œuvres monumentales, des œuvres historiques et de plus des œuvres religieuses, sachant qu'il y a toujours le cloître, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un bâtiment qui a cette empreinte religieuse. Donc quand on arrive dans cette salle, c'est très spectaculaire, mais on a l'impression d'être dans une bodega mexicaine, avec des couleurs, avec des lustres qui pendent au-dessus. Et chose tout à fait surprenante, c'est que les chapiteaux ont été nettoyés. Mais ils ont été nettoyés tellement, ils sont tellement blancs, la lumière qui arrive par en dessus est tellement forte qu'on n'arrive pas, de ce fait de la blancheur des chapiteaux, on n'arrive plus à distinguer les sculptures et on a l'impression qu'il s'agit de moulages. Alors je rappellerai qu'il y a au Palais de Chaillot à Paris le musée des moulages qui est justement, on a par exemple le portail de Moissac qui est reproduit avec une extraordinaire fidélité, des moulages qui datent du 19e siècle et qui reproduisent la pierre avec la patine, l'usure qui est reproduite avec des plâtres. Et là, on a des pierres authentiques et qui sont devenues blanches comme des moulages. Donc, on va marquer une pause musicale, mais vous comprenez mon étonnement. Thank you. Donc je reprends sur ce problème des transformations des pièces. Donc ça va au-delà de l'architecture. C'est cette question de nettoyer ces chapiteaux. Et j'ai lu aussi dans les journaux locaux qu'il y avait un projet de nettoyer aussi les chapiteaux que l'on peut voir, même si le cloître est fermé en partie pour les travaux qui continuent. La même chose pour les colonnes du cloître. Donc ça me paraît totalement surprenant parce que la patine des bâtiments anciens doit être préservée et surtout quand ils sont nettoyés, on a l'impression que le matériau n'est plus le même. Donc dans le cas des chapiteaux, mais j'ai eu l'impression, et là j'aimerais que on puisse en avoir une confirmation, que la même technique a été employée sur des sculptures, dont les grandes sculptures du XIXe siècle, puisque ce musée est essentiellement pour des œuvres remarquables du XIXe siècle, qu'on ait appliqué la même procédure de nettoyage, et c'est-à-dire transformer de la pierre en l'aspect de plâtre, ce qui est absolument navrant. Donc, je dois dire que, d'une part, on peut dire les gadgets de certaines salles et aussi de parcours sonores, de choses qui me paraissent totalement inutiles. Un musée n'est pas un lieu d'expérience comme cela, dans la mesure où, justement, c'est le rôle attribué au musée d'art contemporain. Et là, que l'on peut critiquer ou pas, mais en tout cas, on est dans justement cette invention de la modernité. Mais là, le musée de préservation ne doit pas jouer à des fantaisies comme cela. Donc je pense qu'il y a un irrespect pour les œuvres anciennes qui me paraît très dommageable. Et aussi, blanchiment des chapiteaux, avec les rendant totalement illisibles. Il faut aussi rappeler que des chapiteaux, ils n'ont pas une lumière qui arrive une lumière zénitale. Ils n'ont pas la lumière qui vient du haut. Ce sont dans les cloîtres qui sont relativement, on peut dire, abrités de la lumière directe. Et donc la lumière est latérale, ou du moins, ça agit par réflexion de ce qu'on peut voir par exemple aux Jacobins, par réflexion sur le sol. Donc il y a une lumière douce et qui arrive plutôt par en bas que par en haut, et qui permet justement de distinguer les personnages et non pas cette lumière violente qu'ont ces lustres, en plus de ça, comme je vous disais, qui sont des luxes de restaurants mexicains ou de fantaisie et qui n'ont aucune place dans un musée, comme celui-là qui est un musée de mémoire. Alors, un deuxième aspect que j'aimerais développer, c'est ce problème de la lenteur. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, comme je vous disais, il n'y a aucune raison aujourd'hui que l'on aille d'une part fermer les bâtiments et que les travaux s'étendent avec une durée aussi incroyable. Alors, il s'agit de bâtiments, mais on peut dire que c'est une pratique, comme je vous disais, pour le musée de Bayonne, mais c'est aussi les travaux extérieurs à Paris, où la ville est on peut dire en travaux d'une manière permanente partout, avec des machines posées, des barrières, et très peu d'ouvriers qui travaillent. C'est un constat qui est fait, qui est un des éléments de la campagne parisienne. On en parle peu pour la campagne municipale qui est en cours à Toulouse, mais c'est une question qui pourrait être posée au maire actuel et au candidat à la mairie. Cette espèce de longueur des travaux par exemple, qui n'est pas uniquement, comme je disais, pour le centre-ville, mais également qui s'étend. Alors, par exemple, la route de Seille, c'est la route de Saint-Simon, il y a eu des voies cyclables, c'est très bien les voies cyclables, mais pourquoi fermer pendant un an et demi ces routes pour créer sur les côtés une voie cyclable? On arrive à faire les choses aujourd'hui d'une manière rapide, mais il est vrai qu'on avait aussi l'expérience des Ramblas, j'en ai déjà parlé, où on voyait à peine quelques ouvriers, ou aussi l'aménagement de la gare, ça a bloqué la circulation sur le canal, ça a bloqué la circulation sur la ville, et c'était terrifiant de voir aussi qu'il y avait 3 ou 4 ouvriers. Bon, il est évident, je suis architecte, je parle de choses que je connais, et qu'on ne peut pas me dire, c'est le temps, la technique, les règlements, tout ça est complètement faux. Sur les marchés publics, il y a des délais, il y a des entreprises qui ont la possibilité de faire en très peu de temps des travaux. Je pourrais citer des exemples précis qui ont été réalisés à Toulouse et puis par moi-même aussi, où on arrive à construire des bâtiments en quelques mois. Donc, il y a par exemple aussi à Bordeaux-Rouge qui est un quartier neuf, et alors là on n'a pas le prétexte de dire ah mais c'est les bâtiments anciens, il faut faire attention, etc., les bâtiments de France. Il s'agit d'un quartier neuf, et pour des aménagements de place, là aussi il y a 3 ouvriers, les commerçants en pâtissent, les habitants aussi, et là aussi c'est sans explication, ou alors l'explication elle est un peu c'est un défaut de maîtrise d'ouvrage, c'est un défaut d'encadrement, c'est aussi qui passe les marchés et avec qui, et cela est quand même assez inquiétant. Alors, en passation des marchés, et il y a les marchés de maîtrise d'œuvre, parce qu'il y a la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de qui paie. Hein, donc, c'est, dans ce cas-là, c'est la ville de Toulouse qui est maître d'ouvrage, et puis il y a aussi la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a la désignation des responsables, ou du responsable. Ça va bien mieux quand il y a un responsable et qu'il y a des sous-traitants que quand il y a une multiplicité de responsables, d'architectes, décorateurs, bureaux d'études. Alors, dans le cas du musée des Augustins, j'ai vu dans les gazettes qu'il y avait 4 équipes d'architectes, plus une qui était chargée de la muséographie, de l'accrochage, donc ça fait 5 équipes. Donc on avait pris pour faire l'aménagement de cette porte bizarre, qui est, j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui est assez surprenant et absolument pas totalement nécessaire, ça faisait 200 mètres carrés d'aménagement. Donc on était faire un concours, prendre un architecte portugais, vous voyez, comme s'il n'y avait pas suffisamment d'architectes locaux capables de faire ce type d'aménagement pour faire cette espèce d'étrangeté. Mais je pensais naïvement, comme la plupart des Toulousains, qu'il y avait cet architecte portugais, bon, pourquoi pas un étranger, mais qui avait la responsabilité de l'ensemble. Mais que nenni, en fait, non, il n'avait uniquement que la porte à faire. Donc on peut être très surpris que l'on ait besoin d'avoir un portugais pour faire 200 mètres carrés sur la rue de Metz. Et donc il y a Bernard Vancher, qui est, alors on dit dans la dépêche, qui est architecte des bâtiments de France, en fait non, qui était architecte des bâtiments de France. Alors c'est quelqu'un qui est un octogénaire et donc il n'est plus fonctionnaire. Donc on ne voit pas très bien pourquoi, à son âge et en étant retraité de cette fonction, qu'il ait ce projet. Et puis, il y a aussi le fils de l'ancien ABF. Ça me semble un peu une entreprise familiale, sachant que le premier architecte a son fils qui a une agence à quelques centaines de mètres. Tout ça est un peu curieux. Et donc, 5 équipes, je pense aussi, c'est une délégation de responsabilité, parce que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, je pense qu'il doit y avoir un système d'organisation pyramidale avec un responsable. Parce que quand il y a des problèmes, tout le monde se renverra la balle, et qu'il est important qu'on ait un responsable. Donc le responsable, il est désigné directement, pourquoi pas, le maître d'ouvrage peut choisir, ou il est par concours, mais on n'a pas des armées mexicaines avec avec cinq responsables de pour un aménageur de bâtiment qui encore une fois n'est uniquement que les aménagements pas tellement visibles pour un bâtiment qui était à ce que j'ai vu dans ma vie d'architecte en le visitant, toujours un bâtiment qui est bien construit, en bon état et qui ne demandait pas une durée de fermeture aussi longue. Il faut savoir que c'est quand même important pour qu'un bâtiment comme celui-là, ça veut dire que pendant 7 années, il y a une génération, et je vois que aussi la jeune fille qui est en face de moi aujourd'hui à Radio Occitanie, qui n'a de sa vie d'adolescente jamais pu rentrer dans ce musée, parce que il y a des équipes de maîtrise d'œuvre ou des ouvriers qui ont dû jouer aux cartes pendant l'exercice de ces 7 années. Voilà, donc, ça serait bien d'avoir des réponses et d'avoir ces questionnements qui sont posés sur la table, justement, à un moment qui est un moment de, on peut dire, de basculement démocratique, le moment des élections où on puisse dire vous êtes responsable de cela ou qui est le responsable de cet état de fait. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie l'excellent Sacha, toujours à la technique, et Sophie qui m'assiste.